Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à vous si vous nous retrouvez le journal dans quelques secondes. 19h15, carte blanche de l'écrivain Philippe Besson et à 19h20, le grand débat du Club des Idées consacré ce soir au danger de l'ultra-droite. Que représentent vraiment ces groupuscules surveillés par nos services de renseignement? Combien sont-ils? Et sont-ils un danger pour notre démocratie? On en parlera avec nos invités. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. 19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Et coup de tonnerre dans le monde de l'automobile, bientôt Jaguar ne ronronnera plus.
Oui, c'est le cas de le dire, puisque le constructeur britannique mise sur une gamme totalement électrique d'ici 2025.
Les variants scrutés de près, même si les chiffres de l'épidémie au niveau national sont en baisse, la Moselle en particulier est sous le feu des projecteurs.
Louis Alliot, débouté, il avait voulu ouvrir les musées de sa ville de Perpignan, la justice lui demande de les fermer.
L'engagement de la France dans l'opération Barkhane au menu du sommet du G5 Sahel, les chefs d'État de la région et Emmanuel Macron font le point sur la lutte anti-djihadisme, mais nous, on fera le point avec notre spécialiste Didier François.
Le procès du chauffard de Lorient, il avait tué un enfant et en avait grièvement blessé un autre avant de prendre la fuite.
Alexis Pinturo rate la médaille d'or pour 4 centièmes au championnat du monde de ski alpin à Cortina d'Ampezzo en Italie.
Et puis la météo, Anissa a dit on en finit, ça y est, enfin avec le froid glacial.
Oui, ça y est, nous n'avons plus de température négative demain matin dans le Grand Est et dans l'après-midi, les valeurs seront printanières, en particulier dans le Sud-Ouest, avec plus de 20 degrés.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et vous n'entendrez donc bientôt plus ce doux ronronnement cher aux oreilles des amateurs de Jaguar, ce moteur V8. C'est ça aussi le monde qui bouge. Le constructeur britannique annonce une révolution.
Bah, vous avez l'oreille, vous, un V8, carrément. À partir de 2025, effectivement, Jaguar sera 100% électrique, Aurélien Fleureau.
Oui, exactement. Alors, le passage à l'électrique, c'est l'évolution globale du secteur automobile. Tous les constructeurs s'y mettent. Mais ce qui a surpris, c'est cette date 2025. Cela va arriver très vite, alors que la fin des moteurs thermiques est plutôt annoncée par certains pour 2035, 2040 même. Mais tout va donc très vite, notamment pour des constructeurs comme Jaguar. Ces voitures sportives, on l'a entendu, très émettrices aussi de CO2. Eh bien, désormais, elles ont des malus très importants à l'achat. La marque doit se relancer. C'est donc la nouvelle stratégie de Jaguar Land Rover, propriété du groupe indo-britannique Tata Motors, pour se positionner face à Tesla, face à Porsche et même face aux constructeurs allemands qui, eux aussi, prennent le virage de l'électrique. Land Rover, par exemple, dans le même groupe, aura aussi des modèles 100% électriques. Donc, c'est une révolution chez Jaguar qui va impliquer des investissements massifs de plus de 2,5 milliards de livres par an dans les technologies d'électrification. Un choix stratégique qui aura aussi des conséquences sur l'emploi. Même si Jaguar a précisé qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de fermeture d'usine, cette annonce arrive tout de même dans un contexte compliqué pour la marque. Avant la crise sanitaire, un plan de restructuration prévoyait déjà de réduire les effectifs de 5000 postes.
Merci Aurélien Fleureau du service Éco d'Europe 1.
Alors comment les puristes prennent-ils la chose? Vont-ils accepter que leur félin préféré perde sa voix? Écoutez Jean-Pierre Merle, il est le président de l'amicale Jaguar de France.
En tant que puriste, c'est surprenant, mais en tant qu'économie de marque, ils n'ont pas le choix. Lorsque vous pensez qu'à aujourd'hui, que ce soit une Jaguar, même XJ, ça va être des pénalités de malus de 30 000 euros cette année, 40 000 euros l'année prochaine. Vous vous rendez compte? Ça fait une belle voiture qu'on donne en taxes en plus. Financièrement, les clients ne peuvent plus les acheter. Donc, les constructeurs, s'ils veulent vendre demain, il faut faire de l'électrique. Mais ce n'est pas surprenant que le Jaguar, c'est le sens de l'histoire, hélas.
Voilà, le président de l'amicale Jaguar de France, Jean-Pierre Merle.
Bien, retour à des préoccupations plus immédiates. La crise et ses variants qui ont donc choisi de poser leurs valises à Dunkerque et en Moselle.
Le britannique dans le nord, le sud-africain et le brésilien dans l'est. Dans les deux cas, pas de reconfinement localisé, pas non plus de fermeture d'école, comme le réclamaient les élus, mais une vigilance particulière.
Insuffisant pour assurer cette mère de famille de Metz, Angélique, qui a donc décidé qu'elle ne mettrait pas ses jumelles au collège jusqu'aux vacances scolaires.
Nous avons appris qu'il y avait deux cas variants mercredi dernier, donc du coup ils allaient encore à l'école. Et hier, avec la réunion visio du CPE, on a appris qu'il y avait une nouvelle classe qui fermait. Donc du coup, là, on a dit on prend plus de risques, on met plus les enfants à l'école. Sachant que nous, à notre domicile, on a ma maman qui vit chez nous et qui a des problèmes rénaux, qui est en dialyse. Donc on a dit on arrête tout. Et nous sommes mis d'accord sur le motif mise en danger de notre enfant et de sa famille, vu la crise sanitaire de la Covid-19. Nos enfants, c'est pas des objets, c'est des humains. Donc je vois pas pourquoi ils devraient prendre le risque avec le variant anglais et sud-africain qui est très contagieux.
Une mère de famille de Metz au micro européen de Marine Protect.
Et cette question, après avoir décidé de muscler ses contrôles aux frontières avec la République tchèque et le Tyrol autrichien, l'Allemagne va-t-elle décider de prendre une mesure similaire avec son voisin français pour éviter évidemment la circulation des variants ?
Alors ce n'est pas le cas pour l'instant. On précise qu'il ne s'agit pas de fermeture de frontières à proprement parler, mais de règles ultra strictes. Pour passer, vous devez notamment fournir un test PCR négatif.
L'Organisation mondiale de la santé annonce avoir accordé son homologation d'urgence au vaccin anti-Covid d'AstraZeneca.
Et c'est une procédure importante puisqu'elle ouvre la voie à la distribution de centaines de millions de doses à des pays défavorisés, privés jusque-là d'immunisation. Elle aide en effet ces pays qui n'ont pas les moyens de déterminer eux-mêmes l'efficacité et l'innocuité d'un médicament à avoir plus rapidement accès à des thérapies. Et elle permet aussi au dispositif COVAX mis en place pour assurer un accès équitable au vaccin d'en commencer la distribution.
Louis Alliot, débouté, il n'a pas le droit d'ouvrir les musées à Perpignan.
Vous savez, on en avait parlé qu'il avait décidé d'en ouvrir 4 la semaine dernière. Et bien cet après-midi, sans surprise, le tribunal administratif de Montpellier a tranché Benjamin Peter. Cette ouverture est contraire aux directives sanitaires.
Oui, et d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup qui s'attendaient à cette décision du juge administratif ont profité des dernières heures d'ouverture, à l'image de Lucas et son fils qui ont fait un marathon.
Ah ben on a fait le tour, on a fait une maison d'histoire naturelle, on fait Hyacinthe maintenant, et puis là on va attaquer le troisième. On a eu le temps de le visiter, c'est déjà une bonne chose, on a apprécié le moment avec mon fils.
Sylviane, elle aussi, ne voulait pas rater cette opportunité d'entrer dans un musée, elle regrette la décision du tribunal.
C'est dommage, parce qu'on ne fait pas la queue dans un musée comme on fait la queue pour les soldes, pour un grand magasin, non, je trouve que c'est très dommage.
C'est le maire, Louis Alliot, qui ce matin est venu plaider en personne au tribunal administratif de Montpellier. Pour lui, l'amélioration de la situation sanitaire aurait pu permettre de garder ces musées ouverts.
Ce sont les musées, ce n'est pas une salle de spectacle, ce n'est pas un cinéma. Il y avait un protocole, d'ailleurs le juge a relevé. Donc il tient compte de ça, mais il dit ben, ce n'est pas au maire à prendre la décision. Donc moi, ce que je demande maintenant, c'est qu'il prenne la décision. Voilà, il n'y a pas de risque à ouvrir un musée en province. Il y a beaucoup plus de risques aujourd'hui à fréquenter, je ne sais quoi, des transports en commun ou des supermarchés. C'est une évidence.
Alors les musées sont donc désormais fermé jusqu'à nouvel ordre, ici aussi. Et le maire suggère que le ministère s'inspire de cette expérimentation, puisqu'en une semaine, plus de 2000 personnes ont fréquenté les 4 musées de la ville.
Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 en Occitanie.
19h07, quel avenir pour l'opération Barkhane ? La France va-t-elle réduire sa présence militaire au Sahel ? Question abordée aujourd'hui à N'Djamena, au Tchad, au sommet du G5 au Sahel, sommet qui réunit donc les 5 pays d'Afrique francophone les plus durement frappés par le terrorisme islamique.
Et on en parle ce soir sur Europe 1 avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Didier, 8 ans après le début de l'intervention française au Sahel, quelle est aujourd'hui la situation sur le terrain ?
Alors en fait, d'un point de vue militaire, elle est bien meilleure qu'elle ne l'était, ne serait-ce que l'année dernière. Rappelez-vous de ce sommet du G5 convoqué en catastrophe à Pau au mois de janvier 2020, alors que les armées du Mali, du Niger, du Burkina Faso venaient de subir une série de défaites terribles. Leur morale était tellement bas qu'elles étaient au bord de la débandade face à une offensive lancée tous azimuts par les groupes djihadistes, ce qui a d'ailleurs décidé le président Macron à muscler les effectifs de l'opération Barkhane avec un renfort significatif de 600 hommes déployés justement dans cette zone frontière entre les trois pays qui était pratiquement passé sous le contrôle des islamistes. Et l'engagement a été rude, avec environ 1500 djihadistes tués en un an, plus d'une centaine par mois, pour des pertes françaises finalement relativement modestes, avec 12 soldats tombés durant la même période. Donc la direction d'Al-Qaïda a été en grande partie décimée avec la neutralisation de son chef et de son commandant militaire. Les grosses katibas de l'État islamique ont été réduites à de tout petits groupes de combattants dispersés qui peuvent encore poser des mines, mais qui ne sont plus capables de monter des assauts d'envergure. Et c'est tout ça qui a permis aux forces armées locales de réoccuper certaines des casernes qu'elles avaient abandonnées l'an dernier.
Est-ce que cela pourrait permettre à Emmanuel Macron d'arrêter l'opération Barkhane ?
Alors voilà, c'est tout le problème. Et non, c'est beaucoup trop tôt. Ce serait extrêmement déstabilisant pour l'ensemble de l'Afrique parce qu'à ce stade, seules les armées tchadiennes et mauritaniennes ont la capacité de l'emporter systématiquement au combat contre les djihadistes. Les progrès des armées maliennes, burkinabées et même de l'armée nigérienne sont encore bien trop fragiles pour qu'elles puissent tenir seules le terrain. En revanche, ces succès opérationnels de Barkhane font que le président de la République peut enfin commencer à envisager une réduction des effectifs français, un allègement qui s'étalerait sur plusieurs mois et qui serait à tout moment réversible pour pouvoir réagir fermement dès que les terroristes ferait mine de relever la tête.
Merci mon cher Didier. Didier François, l'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Dans l'actualité également ce lundi, l'ouverture du procès du chauffard de Lorient, ce jeune homme de 22 ans accusé d'avoir renversé 3 enfants. C'était en juin 2019, tuant l'un d'eux, blessant grièvement le second, légèrement le troisième. Charles Guyard, vous suivez cette audience. Un an et demi plus tard, les familles attendent surtout des réponses.
Oui, et cela fait un peu plus d'un an et demi que les familles attendent cette confrontation. Maître Philippe Courtois, leur avocat.
Ils espèrent sincèrement que les deux prévenus vont répondre à leurs questions et interrogations. Ils vont faire face à des personnes qui n'ont jamais exprimé un seul mot de ce qu'ils ont fait. Ils n'ont jamais présenté des excuses.
De fait, si des condoléances ont bien été prononcées cet après-midi à la barre, ce n'est ni par Kylian ou Gaël, les deux prévenus, mais par Cédric, témoin direct de ce qu'il décrit comme une véritable scène de guerre dans laquelle Bouniamine, 9 ans, a perdu la vie dans ses bras. J'ai été avec lui pour ses derniers instants, a-t-il soufflé bouleversé à son papa. Ces derniers instants, Kylian et Gaël, eux, ne s'en sont pas souciés. Ce 9 juin 2019, quittant les lieux précipitamment après le choc, j'ai fui car j'avais peur des conséquences, bredouille le jeune homme de 22 ans qui conduisait sans permis et venait de se soustraire à un contrôle de police. Sa passagère a suivi, elle était affolée et maintient-elle sous la contrainte. La présidente y voit plutôt un mauvais réflexe, comme la nuit précédente où, terrible chronologie, elle ne s'était déjà pas arrêtée après avoir embouti une voiture en stationnement en rentrant de discothèque. Dans la foulée du drame, le duo est parti en cavale. Elle s'est rendue au bout de 3 jours. Il a été interpellé au bout de 9. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison, notamment pour homicides et blessures involontaires avec circonstances aggravantes. Et elle risque 7 ans si la non-assistance à mineurs de 15 ans en péril est retenue à son encontre.
Charles Guyard qui suit ce procès à Lorient pour Europe 1.
Les sports à présent. De l'argent pour Alexis Pinturo au championnat du monde de ski alpin à Cortina d'Ampezzo en Italie.
Vice-champion du monde. C'est formidable, mais c'est quand même une petite déception, Corinne Boulot, pour le skieur de Courchevel qui visait le doublé en or.
Oui, en effet, Alexis Pinturo s'est vu souffler pour 4 centièmes la possibilité de remporter un deuxième titre mondial consécutif. Deuxième temps du Super-G ce matin, en position idéale pour viser à nouveau l'or avant la manche de slalom. Un skieur a fait mieux que lui, l'Autrichien Marco Schwartz, 25 ans. Le meilleur slalomeur de la saison s'impose dans ce combiné alpin et relègue donc sur la deuxième marche du podium à un Pinturo, un tantinet déçu.
C'est toujours un peu frustrant, hein, surtout au Mondiaux, de manière générale déjà, mais au Mondiaux encore plus. Après, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Et puis, ça s'est joué un mouchoir de poche. Donc voilà, aujourd'hui, je suis deuxième et je pense qu'il faut voir aussi le côté positif de la chose. C'est que c'est une deuxième médaille en 2 courses. J'étais largement encore dans le coup aujourd'hui pour la victoire. Et il y a juste Marco qui a été 4 centièmes meilleur que moi aujourd'hui et qui a pu aller chercher la victoire.
Après le bronze inattendu en Super G jeudi dernier, Alexis Pinturo, vice-champion du monde aujourd'hui dans le combiné, remporte quand même une 5e médaille mondiale. Et sa moisson n'est sans doute pas terminée. Il lui reste encore 2 courses, notamment le géant vendredi prochain, dont il sera l'un des favoris. Une réaction d'orgueil ne serait pas surprenante de la part du Français qui domine cette saison de Coupe du Monde.
On l'espère. 4 centièmes, c'est rarement quand même. Merci Corinne Boulou.
Merci Isabelle. À demain à partir de 18h. Un coup d'œil à la météo avec Anissa qui nous annonce le retour du beau temps à partir de demain.
Oui, un temps calme, doux et ensoleillé effectivement pour demain avec le soleil qui domine sur une grande partie du pays, en particulier sur la moitié sud. À l'ouest, nous avons une nouvelle perturbation qui va apporter demain sur la Bretagne, les pays de la Loire et la Normandie quelques nuages, de la pluie et surtout du vent, le vent de sud-sud-ouest qui va souffler jusqu'à 60 km/h sur les côtes. Au bord de la Méditerranée, là ce sont des entrées maritimes que nous avons. Elles seront nombreuses demain, du Languedoc jusqu'au Var en passant par les Bouches-du-Rhône. Tout le golfe du Lion est concerné par un temps plus couvert et plus humide. Les températures, alors elles continuent de se radoucir. On termine par les bonnes nouvelles. Avec la fin des gelées matinales dans l'Est, nous aurons 0 à 11 degrés demain matin, 4 degrés pour Paris et 9 à 22 degrés au meilleur de la journée. 9 degrés pour Dunkerque, 12 à Paris, Lyon et Ajaccio, 14 à Marseille et Poitiers, 15 degrés pour Nice et Aurillac, 18 à Clermont-Ferrand, 21 à Pau et 22 la maximale pour Tarbes.
Et ben voilà, 22 à Tarbes, pas mal.
Ouais, très
merci
chouette.
Anissa. Dans quelques secondes, 19h14, le Club des idées avec nos invités, consacré ce soir au retour de l'ultra-droite qui inquiète. On en parlera au sommet de l'État. D'abord, la carte blanche, signée ce soir Philippe Besson.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Philippe.
Bonsoir Julien.
Ravi de vous retrouver pour votre carte blanche du lundi. Alors ce soir, mon cher Philippe, c'est un coup de gueule que vous voulez pousser. Un coup de gueule contre les sénateurs qui ont amputé la principale disposition de la loi bioéthique, à savoir autoriser la PMA pour toutes.
Oui, c'était une journée bien triste pour la liberté des femmes quand le Sénat a ainsi refusé cela. En commençant par rappeler que la PMA en France est régie par la loi depuis 2004, qu'elle permet aux couples infertiles d'avoir des enfants. Un bébé sur 30 est d'ailleurs issu de cette technique. Il s'agit de la rendre désormais accessible aux lesbiennes et aux femmes seules. Et c'est donc ce à quoi le Sénat s'est refusé. Or, derrière ce vote, comme l'a fort bien exprimé SOS Homophobie, il y a des femmes baladées depuis des années de débat en débat, ponctuées de manifestations des opposants. En réalité, c'est du mépris et une insulte envers celles qui attendent depuis si longtemps. Car au fond, on continue à jouer de manière indigne avec les espoirs de ces femmes. On se moque de leur désir d'enfant. On leur dit « vous resterez en marge de la société ». Imaginez que si les choses demeuraient en l'état, elles devraient continuer à accomplir leur démarche à l'étranger, notamment en Belgique, c'est-à-dire en cachette, comme autrefois leurs aînés se faisaient avorter clandestinement.
Et pour autant, si vous êtes en colère, vous n'êtes pas tellement surpris de cette décision, dites-vous.
Non, en effet, le Sénat n'a jamais été très progressiste, reconnaissons-le. Et pour l'association Maman Solo, son vote est une superbe leçon de patriarcat de la part d'hommes non intimement concernés par le sujet, manifestement non informés et attachés à une vision traditionnaliste de la famille. Fermez le banc. Alors, pourtant, il faut préciser que le même Sénat, avec une audace stupéfiante, avait adopté la PMA en première lecture il y a un an pile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Eh bien, un homme s'est activé en coulisses pour que la Chambre haute fasse machine arrière et en revienne à ses fondamentaux. Cet homme, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe LR. Il a si bien manœuvré qu'il a rallié à lui les plus radicaux et les plus conservateurs, et exaspérer la gauche qui a préféré s'abstenir devant un texte vidé de sa substance.
Et pourquoi cet activisme, selon vous, mon cher Philippe ?
C'est tragiquement simple. Retailleau est en campagne pour décrocher l'investiture des Républicains à la présidentielle et il reprend le flambeau de la droite catho pour espérer rallier tous les militants de la Manif pour tous qui ont d'ailleurs salué ce revirement comme une victoire. Au fond, il a instrumentalisé les familles dans le cadre d'une guéguerre politique et pour faire avancer son ambition personnelle. Vous voulez que je vous dise, je trouve ça, moi, assez lamentable.
Mais peut-être que fondamentalement, il est opposé aussi à la PMA pour toutes.
Peut-être oui, que ce sont il y a, mais ça n'empêche pas les arrière-pensées, je pense.
Alors, néanmoins, Philippe, lorsque le texte reviendra à l'Assemblée nationale, a priori, en dernière lecture, il sera adopté et la PMA entrera donc en vigueur.
Oui, il y a de grandes chances qu'il en soit ainsi, mais une fois de plus, la France aura démontré sa frilosité sur ces sujets dits sociétaux. Rappelons qu'il a fallu attendre 1982 pour que se mit fin à la discrimination, datant quand même du régime de Vichy, qui établissait l'âge de la majorité sexuelle à 15 ans pour les personnes de sexe opposé, mais à 18 pour les personnes du même sexe. Rappelons qu'en 1998, lorsque le PACS a été présenté à l'Assemblée par le gouvernement Jospin, une partie de la gauche s'est opportunément carapatée, ce qui a permis l'adoption d'une motion d'irrécevabilité qui était portée notamment, on s'en souvient, par Christine Boutin et Philippe de Villiers, et le texte n'a pu être adopté qu'un an plus tard. Rappelons qu'en 2013, le mariage pour tous a suscité des débats houleux au Parlement et provoqué des manifestations géantes où les pires slogans homophobes ont été entendus. Enfin, cette fameuse PMA, c'était une promesse de François Hollande, il ne l'a pas tenue. C'était également un engagement du candidat Macron et on doit hélas constater que, 4 ans après son élection, nous en sommes toujours au point de départ. La liberté, décidément, c'est un long combat.
Bien, carte blanche signée ce soir, Philippe Besson. Merci mon cher Philippe.
Merci Julien.
Europe 1, Julien Bugier.
19h18, restez avec nous dans quelques secondes. Le grand débat du Club des Idées, on parlera de la menace de l'ultra-droite avec nos invités. A tout de suite. Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse donc à la mouvance de l'ultra-droite. Comme il l'avait annoncé, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donc enclenché la dissolution de Génération Identitaire, l'occasion de nous intéresser ce soir à cette question. Alors, on va s'interroger sur cette menace intérieure. Qui sont ces groupes plus ou moins clandestins qui gravitent de la nébuleuse de l'ultra-droite, des structures qui ont souvent, on l'entendra ce soir, le culte de la violence et recherchent l'affrontement ? Nationalistes, suprémacistes, néo-fascistes, qui sont-ils vraiment ? Quelle est leur influence ? On en parle donc ce soir avec nos invités. Sylvain Boulogne, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des mouvements sociaux et des extrêmes et auteur de Julien Le Pen, un lutteur syndicaliste et libertaire. C'est aux éditions de l'atelier Création Libertaire. Merci de votre présence. On en parle également avec Jean-Michel de Cugy. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter, police-justice au Parisien, auteur de La Poudrière avec Pauline Guéna et Marc Le Plongeon. C'est aux éditions Grasset, un livre absolument passionnant. C'est une plongée dans les réseaux de l'ultra-droite. Et on en parle également avec Jean-Yves Camus. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques et évidemment grand spécialiste de la question. Alors d'abord, sait-on précisément combien de groupes ou de structures sont considérés par cette appellation hein, de la mouvance de l'ultra-droite, Jean-Michel ?
Voilà, des dizaines de structures, de groupuscules, des centaines peut-être.
Vous avez un chiffre, vous, peut-être, Jean-Yves Camus ?
J'ai un chiffre des militants et sympathisants, qui est d'ailleurs corroboré par les déclarations récentes de Laurent Nunez. C'est aux alentours de 3000 personnes, premier et second cercle, ce qui fait une stabilité numérique, et c'est très important, depuis une dizaine et une douzaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent,
ouais.
Il y a des gens qui rentrent. Les deux arrivent à se contrebalancer. Mais ce n'est pas une mouvance en explosion numérique. Il faut rappeler qu'en Allemagne, pays à population égale de la nôtre, il y a 26 500 militants ultra-droite recensés par l'Office de protection de la Constitution. 26 500, dont 13 500 qui appartiennent à la catégorie...
Un pays qui a plus de population que le nôtre.
13 500 qui appartiennent à la catégorie des militants orientés vers la violence.
Oui. Oui, donc ça fait beaucoup.
Pardon, je n'avais pas compris, je pensais que vous posiez les questions sur les groupuscules. Effectivement, sur le socle, il reste assez stable, même si nous, après notre enquête, on pense qu'il est sous-évalué. Pour bien connaître les services de renseignement, je sais comment ils calculent les gens. Et aujourd'hui, avec la caisse de résonance que représente la fachosphère, avec ces centaines de milliers de personnes qui sont sur les sites fachos, entre guillemets, et ces groupuscules qui se créent dans la clandestinité, et je pense notamment aux survivalistes radicalisés, et on a vu que depuis plusieurs mois et plusieurs années, depuis 2017, il y a eu quand même 5 groupuscules qui ont été neutralisés par les services de renseignement et qui avaient des projets d'attentats.
Oui.
Là, on a une nouvelle mouvance, si vous voulez, des gens nouveaux, qui sont plutôt insérés dans la société, qui ont un autre profil que ceux qu'on connaissait, les skinheads, crâne rasé,
etc. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous écrivez dans votre ouvrage La Poudrière, et qui rejoint les travaux qui ont été faits par ailleurs, c'est que ces activistes de ce groupuscule de l'ultra-droite infiltrent aussi les mouvements sociaux, par exemple les Gilets jaunes, on en parlera tout à l'heure, la mouvance des survivalistes. C'est une composition assez multiple, ces groupes de l'ultra-droite. Pour poser les enjeux du débat, je voudrais d'abord qu'on écoute ce que disait Laurent Nunez, coordinateur national du renseignement, à l'époque où il s'exprimait à notre micro. C'était le 3 janvier dernier dans le grand rendez-vous d'Europe. Écoutez-le.
On voit de plus en plus se développer ce genre de pratique. La montée en puissance de ces mouvements suprémacistes, survivalistes, qui pratiquent le survivalisme chez l'ultra-droite et qui forcément inquiètent. D'abord parce qu'on a déjoué 5 attaques terroristes depuis 2017 rattachées à l'ultra-droite et qui concernaient des individus qui s'inscrivaient dans ce type de profil.
Sylvain Bouloc, est-ce qu'il y a une convergence idéologique entre tous ces groupes ?
Il y a un terreau beaucoup plus large dans la mesure où on a un parti d'extrême droite qui est quand même entre 20 et 25%, ce qui diffuse et infuse dans un certain nombre d'idées dans la société française. Après, l'ultra-droite en tant que telle, elle n'a pas fondamentalement changé depuis les années 60. C'est-à-dire qu'on retrouve à peu près toujours les mêmes structures, à peu près toujours le même type de groupe de militants, avec quelques nuances importantes, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions sociales. C'est-à-dire que initialement, c'était plutôt des étudiants issus de bonnes familles. Là, je vais prendre un exemple. On a une évolution sociale majeure autour notamment de tout le phénomène hooliganiste et des supporters de clubs de foot.
Oui.
Où là, on a une, entre guillemets, prolétarisation d'une partie de l'ultra-droite. C'est un aspect. Après, il y a des nouveautés également. Tout ce qui est cette mouvance survivaliste qui n'existait pas du tout, qui était infinitésimale, qui prend une part plus importante qu'il faut relativiser également.
Est-ce qu'il y a toujours deux courants majoritaires quand même, Jean-Yves Camus, à savoir le courant qui est inspiré de la frange anti-musulmane et celle de l'antisémitisme ?
Alors, au bénéfice, j'allais dire, de l'âge, je regarde un petit peu jusqu'aux années 70, à la fin des années 70, et je constate effectivement deux choses. La première, c'est que l'antisémitisme perdure, notamment dans la frange néo-nazie. De toute façon, c'est leur raison d'être. Mais clairement, à partir des attentats du 11 septembre 2001, on voit une bascule et les groupes s'orienter plus précisément vers la mise en cause de l'islam, je dis bien de l'islam, pas de l'islamisme, et des musulmans en général, quel que soit leur degré de pratique.
Oui.
L'antisémitisme, il subsiste, je veux dire, il subsistera toujours, il se reformule aussi dans un certain nombre de théories du complot. Mais il y a quelque chose sur quoi je veux insister, c'est que pour ceux qui ont connu les années 70-80, la violence, elle était déjà là, et elle était peut-être plus forte qu'elle est aujourd'hui. Dans la décennie 90, on va dire entre 85 et 95, et ça continue jusqu'à la fin de la décennie 90, oui, le nombre de meurtres imputables à la mouvance skinhead politisée à l'extrême droite, il est important.
Oui, oui.
Voilà, et ce sont des affaires assez régulières. Le milieu skinhead, c'est un millier de personnes.
Est-ce qu'il y a des nouveaux porte-voix quand même qui popularisent un peu les idées de cette ultra-droite? On pense à Renaud Camus, théoricien du grand remplacement, on pense à Dieudonné, on pense à Alain Soral. Est-ce que ça, ce sont
Eric
des... Et qui utilisent aussi des réseaux de diffusion comme les réseaux sociaux, qui sont assez nouveaux quand même?
Ah, mais ça dépend de la conception qu'on a de l'ultra-droite. Mais si vous voulez, Renaud Camus ne vient pas de l'ultra-droite. Il a évolué. Il a pris un certain nombre de positions.
Il en est un théoricien quand même aujourd'hui.
Oui, enfin, il en est un théoricien, c'est vite dit. Il a un mantra qui est le grand remplacement et il décline ce mantra. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Dieudonné, bah, très honnêtement, pour voir aussi l'origine de Dieudonné à l'extrême droite, il faut quand même aller chercher loin. Et même Alain Soral n'est pas un produit pur jus de l'ultra-droite traditionnelle.
Oui, oui.
Donc, c'est ça peut-être le brouillage principal que la montée en puissance des réseaux sociaux a produit, c'est que tout s'est reformulé autour des théories complotistes en attirant des gens qui n'étaient pas au départ, j'allais dire, les héritiers des groupes d'ultra-droite des années 70-80. Il y a une rupture assez nettement.
Mais qui participent quand même à un terreau idéologique. C'est ce qu'on voit dans votre ouvrage, Jean-Michel de Gugy. C'est-à-dire que...
Nous, ce qu'on constate, et on a fait de la veille, hein, sur les réseaux sociaux, et... Et c'est pour ça qu'on appelle ce livre La Poudrière, c'est qu'on pense que la situation est explosive. Et pourquoi elle est explosive? Parce qu'il y a une radicalisation rampante,
oui,
sur les réseaux sociaux, avec une caisse de résonance qui est extrêmement importante. Et ça, c'est très nouveau. Et il y a, si vous voulez, ce terreau qui existe... aujourd'hui, dans la société française, avec des idées de l'ultra-droite qui sont diffusées, avec des relais, avec des personnalités publiques, des hommes politiques qui reprennent des idées aujourd'hui de l'ultra-droite. Et c'est ça qui est assez, pour nous, nouveau, et qui, aujourd'hui, il y a un terreau, si vous voulez, pour... Et c'est ça que craignent les services de renseignement, un passage à l'acte de ce qu'on appelle un loup solitaire, de quelqu'un qui est un peu fragilisé, qui est radicalisé, qui est seul face à son écran et qui, eh bien, peut, parce qu'il est fragile, parce que va pas pouvoir passer à l'acte, comme on a vu dans les pays européens et comme dernier exemple en date, ce Frédéric Limol,
oui,
qui est un survivaliste radicalisé, qui tire sur oui, des gendarmes, mais qui aurait pu faire un carton beaucoup plus important.
Bien, on marque une première pause, on se retrouve dans quelques secondes, on continue d'en parler. L'extrême droite violente à proportion terroriste. On se retrouve avec nos invités, vous restez avec moi tout de suite. 19h30, passé de 1 minute, on poursuit le débat du Club des idées ce soir et on s'intéresse donc à la mouvance de l'ultra-droite. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, je vous le rappelle, a enclenché la dissolution de Génération Identitaire. On en profite donc pour s'interroger sur ces structures, sur la culture de la violence, sur la recherche de l'affrontement. Nationaliste, suprémaciste, néofasciste, on va tenter de définir ce qu'est aujourd'hui l'ultra-droite et les dangers qu'elle représente pour la démocratie française. Je voudrais vous faire écouter, par exemple, ce que disait Yvan Benedetti, ancien président de l'Œuvre française, organisation dissoute par les autorités. C'était le 19 janvier 2019, lors d'une réunion publique à Rungis, dans le Val-de-Marne.
Il faut non pas tenter de récupérer les gilets jaunes, mais il convient d'aiguillonner le mouvement, d'orienter le mouvement. Parce que les révoltes sont stériles. Seules les révolutions sont salvatrices. Et nous sommes rentrés en période révolutionnaire.
Voilà, je trouve que cet extrait est assez singulier, Jean-Yves Camus, et nous éclaire aussi, vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, et nous éclaire aussi sur la manière dont ces mouvances tentent de capter la colère sociale. C'est le cas pour les Gilets jaunes ?
Alors, Yvan Benedetti tente de capter la colère sociale. D'accord. Avec combien de personnes tente-t-il de la capter et de détourner le mouvement des Gilets jaunes ? les rares fois où je l'ai vu, une quinzaine. Mmh. Dans les manifestations anti-PMA, anti-GPA, présent aussi avec une quinzaine de personnes. L'ex-œuvre française qui continue sous des noms divers, Parti nationaliste français, les nationalistes, quelques centaines de personnes à l'échelle nationale. Là, vous êtes en face d'un cas limite, de quelqu'un que même une condamnation pour reconstitution de Ligue dissoute n'a pas fait dételer. Mais cette tentative de détourner le mouvement des Gilets jaunes, même si des militants d'ultra-droite ont été impliqués dans le saccage de l'Arc de Triomphe, dans un certain nombre d'autres actions, il n'est pas arrivé à ses fins. Le détournement n'a pas pris, parce que les causes de la colère sociale qui ont donné le mouvement des Gilets jaunes, très honnêtement, ne sont pas récupérables par ces groupes qui, fondamentalement, n'arrivent pas à embrayer sur le mouvement social.
Mais donc,
social.
Vous me dites quoi? Le sous-texte, c'est de dire aujourd'hui il n'y a pas de menace de l'ultra-droite en France?
Non, ce n'est pas ce que je dis. Vous n'êtes jamais à l'abri, effectivement, de quelqu'un qui, seul, va se radicaliser derrière son écran et qui va tenter de faire un carton. Vous pouvez même avoir quelqu'un, ça s'est produit à Bayonne, qui, malgré ses 84 ans, non seulement tente de faire un carton sur une mosquée, mais accueille les policiers venus l'arrêter en les mettant en joue, ce qui dénote quand même un degré de radicalisation assez élevé. Mais je ne suis pas du tout... D'abord, il faut le préciser, les services de renseignement, tous, ont ça dans le scope. C'est-à-dire que c'est une menace qui n'est pas négligée.
Mais est-ce qu'il y a une résurgence? C'est ça le sujet. Quand j'entends Laurent Nunez nous dire tout à l'heure, on voit en ce moment une montée en puissance de la mouvance survivaliste ou suprémaciste au sein de l'ultra-droite, on entend forcément derrière, tiens, il y a un danger.
Pour moi, il y a un danger. Pardon.
Sylvain Boulot.
Oui, alors, il y a plusieurs types d'actions violentes et il y a plusieurs types de violences. Il y a ceux qui pourraient aller jusqu'à l'acte ultime, qui est l'utilisation d'armes à feu contre des personnes. Après, vous avez d'autres types de violences de plus basse intensité où vous les retrouvez de manière extrêmement fréquente dans toutes les manifestations ou dans un certain nombre de rassemblements associatifs. Ça, encore, il y a eu dernièrement un certain nombre de militants d'extrême gauche qui se sont fait casser la figure par des militants d'extrême droite. Donc, vous avez plusieurs types de violences.
Oui.
Il y a un des groupes, notamment, qui est très connu pour son ultra-violence, qui s'appelle les Zouaves, où il manie la barre de fer de manière extrêmement fréquente. Et ça, c'est quelque chose de latent.
Laurent Nunez nous parle d'actes terroristes.
Laissez-moi terminer. Ça a quand même donné la mort d'un homme qui il y a 5-6 ans maintenant, qui s'appelait Clément Méry, qui a été victime d'un affrontement. Donc, il peut y avoir différentes formes de violence. Ça peut aller jusqu'à l'action armée, ça peut aller jusqu'à l'action terroriste. Après, il y a des formes d'intimidation qui relèvent de pratiques totalitaires du politique, qui sont ce qu'on peut voir dans...
Ça ne fera jamais le même nombre de morts que l'attentat de Nice. Ça ne fera jamais le même nombre de morts que l'attentat du Bataclan. Il faut à un moment donné... Je veux dire, je ne peux pas être suspecté de minorer.
Il n'y a pas de hiérarchie dans le danger,
on n'est pas là pour dire...
Il y a une hiérarchie dans le danger. Aujourd'hui, on a des réseaux islamistes qui sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus financés, qui représentent un nombre de personnes
qui sont beaucoup plus...
On n'est pas là pour comparer, excusez-moi, des émissions sur la radicalisation islamiste et sur les dangers des mouvements islamiques. On en fait très régulièrement.
La menace en miroir.
Chaque fois qu'il y a des attentats islamistes, vous avez... Et je suis désolé, c'est pas... Vous avez des répercussions, vous avez des attaques contre les musulmans, contre des mosquées, etc. Vous parliez de ce monsieur de Claude Sanquet, mais moi je vais vous citer par exemple, après l'attentat, le dernier attentat de Nice, vous avez 2 heures après quelqu'un, 2 générations identitaires justement, qui était un militant, qui a mis son pistolet sur la tempe d'un musulman et qui a été abattu par la police.
Je ne veux pas qu'on rentre dans ce niveau de comparaison, s'il vous plaît. Moi, je fais une émission par soir. On a décidé de s'intéresser à la menace et aux mouvances de l'ultra-droite. Sylvain Boulogne.
Je serais un peu plus nuancé sur le risque potentiel de crimes importants, dans la mesure où on a vu ce qui s'est passé à Christchurch, donc dans d'autres pays, au Danemark il y a quelques années, où vous avez un militant d'extrême droite seul qui a pu tuer plusieurs dizaines de personnes. Donc, la possibilité d'avoir un homme armé qui abatte plusieurs dizaines de personnes...
Ah mais elle existe.
Elle existe. Après...
Nice, c'est un homme, un seul homme, avec un camion.
Après, donc, c'est
et les mots d'ordre.
Ce discours,
et avec aucune connexion avec l'étranger.
On peut peut-être se laisser parler les uns les autres. Merci, Sylvain Bouloc.
Ce discours et cette pratique, elle est potentiellement présente. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément passage à l'acte. Mais c'est quelque chose qui existe de manière latente chez un certain nombre de militants qui s'appellent suprémacistes ou racialistes. Ils existent. Après, en termes de nombre...
Radicalité, par exemple, qu'on observe, pour faire un comparatif dans l'actualité récente par rapport à ce qu'on a observé aux États-Unis, ça peut exister aussi en France. Je lisais un papier ce matin du Figaro qui nous parlait de la mouvance QAnon qui est en train, vraisemblablement, d'arriver chez nous en France avec des premières manifestations. Est-ce que ça inquiète les services de renseignement, par exemple?
Moi, je ne sais pas si on ne doit pas comparer, mais en tout cas, le 17 novembre, un certain nombre de gilets jaunes... entourés de gens de l'ultra-droite, mais aussi de l'ultra-gauche, ont failli rentrer dans l'Élysée, ou palais, dans le palais de l'Élysée. Mmh. Ben, je veux dire, c'est une évidence. Ils ont failli rentrer. Et ils sont rentrés chez Griveaux, au ministère, en mars 2019.
Non, attendez, là, c'est pas vrai.
La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas un président de la République qui, auparavant, avait tenu meeting et avait engagé les militants à marcher sur le Capitole. Mais je crois qu'effectivement, ce qui va se passer dans les mois prochains, c'est sans doute que nos militants d'ultra-droite vont regarder de près ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça les fait, pour certains, pas mal fantasmer. Je crois que ça va être intéressant de voir aussi qui rencontre qui contacte qui, comment se bâtissent les passerelles. Mais l'événement majeur du 6 janvier, c'est un président des États-Unis qui, très imprudemment ou en toute connaissance de cause, fait un rallye, un meeting avec des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, oui. Et qui leur dit, grosso modo, allez-y. Il ne s'est pas passé la même chose en France au moment de la révolte des Gilets jaunes, et pour cause, heureusement.
Bien. Alors, on se retrouve dans quelques instants, et vous direz si justement la dissolution décidée par Gérald Darmanin de Génération Identitaire, ça a un sens, et quel est le sens de cette dissolution. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. 19h40, la suite du débat du Club des Idées, on s'intéresse à la mouvance de l'ultra-droite. Alors, je posais la question juste avant la pause, le ministre de l'Intérieur, effectivement, Gérald Darmanin, enclenchait la dissolution de Génération Identitaire. Est-ce que ça a un sens, ça, Jean-Yves Camus? Et si oui, lequel?
Ça a un sens dans la mesure où toute mesure de dissolution est toujours une décision politique. C'est-à-dire que, in fine... Une dissolution, c'est un signal qui est donné par le ministre de l'Intérieur avec l'assentiment du président de la République. Là, le but, c'est de dire, écoutez, voilà, il y a une limite qui a été franchie. La limite, visiblement, ce sont les opérations anti-migrants dans les Alpes et dans les Pyrénées. Normalement, la police de l'immigration, c'est la police nationale et la gendarmerie qui l'assure. Ça n'est personne d'autre. Ça faisait déjà un certain nombre d'années que le décret de dissolution de Génération Identitaire traînait dans les cartons. Le dossier paraissait un peu faible juridiquement, savoir qu'on peut toujours contester devant le Conseil d'État une mesure de dissolution. Là, Gérald Darmanin prend le risque. Il le prend sur le fondement de deux articles du L212-1 du Code de la Sécurité Intérieure. Le petit 2 qui permet de dissoudre les milices, les groupes armés et les milices privées.
Oui.
Et le petit 6 qui se rapporte à la discrimination, la promotion ou l'incitation à la discrimination.
C'est pas la première fois qu'il y a des groupes qui sont dissous. En 2019, il y a eu les dissolutions de plusieurs groupuscules d'ultra-droite, Bastion Social, Blood and Honor, Combat 18, qui ont été prononcés. Ça n'est pas une première, Sylvain Bouloc.
Non, mais de toute manière, il faut voir que Génération Identitaire est la résurgence d'un autre groupe qui s'appelait Unité Radicale dans les années 2000, dont un des membres, Maxime Bonnery, avait manqué de tirer sur le président de la République. Donc, après, Génération Identitaire a évolué dans ses modes de communication, dans sa manière de faire de l'agit-propre et dans son rapport à la sphère publique. Mais le terreau idéologique, il n'est pas fondamentalement si différent que ça. Alors, peut-être qu'il y a eu un abandon de la violence, quoique, quand on regarde leur site et quand on voit les propositions d'entraînement de stages intensifs d'été, on peut se poser un certain nombre de questions.
Oui.
Mais... toujours est-il qu'on n'est plus exactement dans la logique du groupe Unité Radicale, même s'il reste un soubassement et un fondement culturel qui peut alimenter un certain nombre de personnes.
Les identitaires, Unité Radicale, ils étaient plus dans la réflexion, ils sont plus dans la réflexion. D'ailleurs, ils ont servi beaucoup, ils ont été beaucoup au FN, en tout cas certains ont été au FN, et la génération identitaire est dans l'action.
Sachant, deuxième chose, ce sur quoi j'allais terminer, c'est qu'il y a un certain nombre des cadres de génération identitaire qui sont actuellement attachés parlementaires d'un certain nombre de responsables du Front National.
Donc il y a une normalisation de ces gens-là aujourd'hui dans la politique française, c'est ce que vous dites.
Non, ce n'est pas nécessairement une normalisation. C'est aussi le fait que pour tout militant de génération identitaire qui est, j'allais dire, pas trop idiot, qui a envie de faire quelque chose, à un moment donné, le seul débouché, le débouché naturel, c'est d'aller au RN. Parce que le Bloc a cessé d'être un parti politique, parce que quand il a présenté des candidats aux élections, il ne réussissait à faire que 5-7% dans son fief des Alpes-Maritimes, mais qu'il n'aurait jamais pu faire un parti politique autonome. Donc, à un moment donné, pour les militants les plus aguerris, on va dire les meilleurs, quoi, ceux qui ont quelques capacités, le débouché, c'est de devenir un jour assistant parlementaire et pour certains élus.
Alors, vous racontez dans votre livre, Jean-Michel de Cugy, vous êtes grand reporter police-justice au Parisien, aussi quelque chose qui peut paraître une évidence, mais quand on ne connaît pas ces mouvances-là, il y a des codes, il y a des règles, il y a un esthétisme d'une certaine manière, il y a des gestes clandestins, vous évoquez le soleil noir par exemple, utilisé par les mouvements païens, la croix celtique ou encore le sanglier.
Le sanglier, oui, c'est le logo même des identitaires qui ont le sanglier. Il était aussi tagué sur l'Arc de Triomphe le jour du 1er décembre. Donc il y a même des surnoms, il y a même des militants qui se font appeler le sanglier. Vous avez un leader, là on parlait des Zouaves, Marc Carqueret, qui se surnomme Marc Quentin, voilà. Donc voilà, il y a tout un symbole autour de ça qu'il faut décoder, effectivement.
Quel est le lien aujourd'hui entre ces groupuscules et le Rassemblement National, justement ? Vous évoquiez le Front National et le fait que certains ont trouvé une échappatoire, d'une certaine manière, dans la politique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un lien entre le parti politique Rassemblement National et ces groupuscules ? Qui veut répondre ?
Marine Le Pen a mis assez longtemps à accepter, par exemple, l'arrivée au FN de Philippe Vardon. Elle était déjà dans le processus de dédiabolisation. Elle craignait que l'entrée d'un dirigeant du Bloc nuise à cette entreprise. Aujourd'hui, Philippe Vardon est un élu RN comme les autres. Il a d'incontestables capacités. Il a un ancrage local. Donc voilà, il est normalisé. Il y a un certain nombre de thèmes qui ont été lancés en avant-garde par le Bloc, notamment le thème du localisme qu'on retrouve aujourd'hui au Rassemblement National. Moi, j'ai retrouvé ce matin la couverture du magazine Les Identitaires de janvier 2011, qui rapporte justement un colloque sur le localisme. Mais sur l'immigration, Marine Le Pen est sur une ligne un peu différente. Elle ne peut pas assumer le langage du Bloc identitaire. Elle ne peut pas assumer le grand remplacement, terme auquel elle trouve des connotations complotistes. Elle ne peut pas assumer la remigration. Donc, à un moment, le Bloc identitaire, me semble-t-il, a, on appelle ça des avant-gardes militantes dans le jargon savant, le rôle qui consiste à lancer un certain nombre de thèmes, un certain nombre de mots d'ordre, dont certains, effectivement, se infusent petit à petit. Mais Marine Le Pen ne peut pas être sur la ligne du Bloc identitaire complètement. C'est pour ça que lorsqu'elle a réagi à la mesure de dissolution, à la menace de dissolution, elle l'a fait sous l'angle des libertés publiques, en disant c'est attentatoire aux libertés publiques. Moi, je suis d'accord avec le Bloc.
Sur ce point, Sylvain Bouloc.
C'est-à-dire, il y a des transfuges individuels. C'est pas un phénomène collectif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va avoir des individualités qui vont passer d'un groupe au parti, ou parfois inversement. Mais ça, c'est le processus naturel. Quand vous avez un parti de masse et à côté un certain nombre de groupuscules, les groupuscules vont tenter de rejoindre le parti de masse pour pouvoir influencer ce parti de masse. Mais c'est du classique de sciences politiques de base. Ça arrive dans n'importe quel parti politique. Là, il se trouve que comme on a, quand on regarde l'extrême droite, c'est en l'occurrence le Bloc identitaire, mais aussi d'un autre côté la Nouvelle Droite diffuse et font infuser un certain nombre d'idées, ou alors troisième, un éditorialiste célèbre sur une chaîne concurrente diffuse un certain nombre de ses idées, mais c'est dans la diffusion des idées qui peuvent, alors là où ça devient important, c'est que comme on a changé, on n'est plus du tout dans les mêmes modes de communication que ceux des années 70 ou des années 50, comme on a changé de mode de communication, ces idées se diffusent de manière totalement différente. C'est-à-dire que les réseaux sociaux permettent la diffusion sans qu'il y ait plus de barrières qui soient réalisées par les partis. C'est-à-dire que les partis ne sont plus du tout les mêmes, n'ont plus du tout la même fonction par rapport à celles qui pouvaient exister précédemment.
Il y a une nouvelle forme d'ailleurs de militantisme, Jean-Michel Decugy, sur les réseaux sociaux qui permet aussi le recrutement peut-être de nouveaux activistes.
Mais moi, c'est, si vous voulez, c'est le phénomène de radicalisation qu'on connaît dans l'islamisme et qu'on connaît aussi à l'ultra-droite. Vous avez des gens, des centaines de... Il y a des sites qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes. Je pense à un site qui Démocratie Participative, qui est un site hébergé au Japon, avec quelqu'un qui le dirige de là-bas, et qui est intouchable, qui a été condamné par la justice française, et qui continue à infuser de la haine. Et là, je parlais tout à l'heure de Frédéric Limolle, le tueur de gendarmes. Ce site, eh bien, qui a été à plusieurs reprises interdit, se reforme sous des URL. Et par exemple, lorsque Frédéric Limolle a tué ses trois gendarmes, il a rendu hommage à ce héros national. Mais on ne mesure pas l'impact que ça peut avoir sur un certain nombre d'esprits fragiles pendant le confinement. Et moi, je pense qu'il y aura une vraie étude à faire sur quelle va être la répercussion sur des esprits fragilisés, le confinement, avec cette radicalisation par Internet, par les réseaux sociaux, qui est une caisse de résonance énorme de l'ultra-droite. Et l'ultra-droite a été parmi les premiers à s'accaparer la toile et à en faire des dégâts. Et ils sont experts dans la manipulation de l'information et de l'exploitation de l'information, quitte à fabriquer les informations.
Le titre de votre livre, Jean-Michel Decugy, ça s'appelle « La poudrière » avec Pauline Guéda et Marc Le Plongeon. Julien Le Pen, un lutteur syndicaliste et libertaire, c'est votre livre, Sylvain Bouloc. Merci infiniment. Vous n'avez pas de livre à présenter, mon cher Jean-Yves Camus ?
Pas en français. Une bibliothèque, vous avez, vous. Pas en français.
Bon, merci à vous, merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange sur la mouvance ultra-droite. Merci.
Europe 1. Julien Bugier.
19h50, vous restez avec nous dans quelques secondes. Les archives d'Europe Soir. Retour en 74 aujourd'hui, quand Solzhenitsyn, l'un des plus virulents opposants à l'URSS, est banni par les soviétiques. On vous raconte l'histoire secrète avec nos archives, comme tous les soirs. À tout de suite. La suite du Club des idées d'Europe Soir avec les archives, comme chaque soir à cette heure-ci. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà.
Bonsoir Jean-Jacques Herry.
Bonsoir.
On part avec vous le 15 février 1974, il y a donc 47 ans, le dissident russe Alexandre Solzhenitsyn, arrivé en Suisse, à Zurich, après son expulsion de l'URSS la veille. Retour donc sur cet épisode marquant en pleine guerre froide.
Lorsque la silhouette reconnaissable à sa longue barbe descend du train ce jour-là en gare de Zurich, c'est sous les applaudissements et les hurrahs sur les quais. La foule est nombreuse pour accueillir Alexandre Isaïevitch Solzhenitsyn. À 55 ans, le dissident russe le plus célèbre, prix Nobel de littérature 4 ans plus tôt, arrêté puis tout juste expulsé du RSS, est à nouveau libre, libre, mais désormais en exil. Il vient de perdre sa nationalité, sa femme et ses enfants. La veille, en Allemagne, il est apparu sonné après sa descente de l'avion.
Mes amis, dit-il, comprenez-moi. Je suis très fatigué, je me fais du souci pour ma famille. Je dois téléphoner à Moscou. Ce matin encore, j'étais en prison. Comprenez ma situation. Il m'est impossible de répondre à vos questions et d'ironiser. J'en ai déjà d'ailleurs trop dit dans ma patrie.
Si Alexandre Solzhenitsyn en est là, c'est à cause de ses mots et de son dernier livre, L'archipel du Goulag. L'ouvrage a été écrit dans les années 50 et 60 et vient d'être publié. L'auteur y raconte ce qui ne doit pas se raconter, la répression politique en Union soviétique, appuyée par les témoignages de ceux que l'on appelle les ZEC, les rescapés des camps de travail.
Oui, écrire ça à ce moment-là et le révéler aux yeux du monde entier, c'était impensable.
Oui, et pour contourner la censure, les minuscules feuilles de papier du manuscrit ont dû être enterrées une à une dans des jardins en Russie. En parallèle, une copie du livre est clandestinement transportée en Europe occidentale pour y être imprimée, à Paris d'ailleurs. Mais effectivement, critiquer Staline et ses crimes dans l'URSS de 1973, c'est encore trop tôt. Cette fois-ci, le prix Nobel est allé trop loin. Sa haute trahison lui vaut l'expulsion, explique alors son éditeur Nikita Strouvier.
Solzhenitsyn s'était mis au-dessus des lois. Il avait conquis pour lui-même une liberté d'action quasi totale. Et évidemment, pour l'autorité soviétique, ça ne pouvait pas durer, parce que ça avait une valeur d'exemple, ça galvanisait les énergies à l'intérieur de la Russie elle-même, mais également dans les démocraties populaires. Solzhenitsyn, c'était l'intouchable. C'est en ce sens, peut-être, que le gouvernement soviétique a marqué un point. Je pense que le gouvernement soviétique a fait là un calcul à long terme, quitte à souffrir un peu dans les premiers temps, à souffrir des attaques très violentes même, mais il compte sur le temps et sur la faculté d'oubli de l'occidental.
En pleine guerre froide, les pays occidentaux accueillent donc le paria russe.
Ouais, c'est une vie d'exilé qui commence. Le Guernesey de Solzhenitsyn, c'est d'abord Zurich pendant 2 ans, où sa femme, ses 4 enfants et sa belle-mère ont finalement pu le rejoindre. C'est là que lui rend visite le journaliste du Point, Olivier Chervillon, en 1975. Il en parle sur l'antenne d'Europe 1.
Moi, j'ai trouvé un homme qui avait d'abord rajeuni, probablement parce que le climat de Zurich lui réussit, et puis un homme plein de verve et de truculence, mais surtout de gaieté. De temps en temps, l'interview était interrompue par l'irruption des bébés Solzhenitsyn, qui sont des petits-enfants blonds de 3 à 6 ans, qui bavardent russes à toute vitesse et qui, de temps en temps, commençaient à faire des danses cosaques sur le plancher. Il n'est pas simplement un défenseur héroïque des droits de l'homme, il est quelque chose de plus que ça. Il est tout ça en même temps et quelque chose de plus. C'est peut-être une sorte de prophète.
Prophète dans son pays, Solzhenitsyn ne le sera pas avant 1994, date à laquelle il est enfin autorisé à retourner sur son sol natal. Après 20 ans à l'étranger, en Suisse donc d'abord, puis aux États-Unis, il peut enfin retrouver sa nationalité. Lorsqu'il meurt à 89 ans dans la nuit du 3 au 4 août 2008, comme dans un retournement de l'histoire, les images de ses funérailles sont largement diffusées à la télévision russe. Et l'on entend même Vladimir Poutine, l'ancien officier du KGB, rendre un hommage appuyé à l'ancien dissident. Il a grandement aidé la société à s'immuniser contre toute forme de tyrannie, déclare-t-il alors.
Merci Jean-Jacques pour ces archives et ce récit. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous dans quelques secondes, le rappel de l'info. Et puis Émilie pour la musique. Salut Émilie.
Salut Julien.
Comment ça va?
Ah bah alors là, ce soir,
ah bon,
comment dire?
Tant que ça?
Ah bah ce soir, c'est le président.
C'est-à-dire?
Je suis là. Sur mon amour, on C'est Jean-Louis Aubert qui était président des Victoires de la Musique qui ont eu lieu vendredi soir. Ouais. Alors, il a mis l'ambiance, il a chanté, il a ouvert la cérémonie, etc., etc. Et donc, il vient ce soir pour nous parler un petit peu des Victoires. Hein. J'espère qu'il va nous raconter ce qui s'est passé en coulisses, mais surtout, il va nous parler de la réédition de son album Refuge, puisque tu sais qu'il l'a ressorti avec des extraits de son concert au Bataclan. Et c'était important pour lui de jouer au Bataclan, Jean-Louis Aubert. Donc, on va parler de tout ça ensemble.
Bien, eh bien, on sera à l'écoute, comme chaque soir. Merci Émilie,
merci Mazoyer, Julien.
À tout de suite pour ton émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure, à partir de 18h. Et on écoute Le Monde Changer sur Europe. À demain.